RFI, les minuit ici à Paris, 7h à Pékin, 6h à Hanoï et 23h en temps universel. Et c'est le journal d'Antoine Galen. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. À la une, les corps de 4 otages israéliens ont été remis par le Hamas. Quelques heures auparavant, le parti islamiste a exposé les cercueils sur une estrade. Une mise en scène qui a révolté la communauté internationale. L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, c'était il y a un mois. Le milliardaire américain taille dans les dépenses publiques, ce qui inquiète les fonctionnaires, vous l'entendrez. Dans ce journal également, le constructeur Renault n'exclut pas de retourner en Russie. Et puis, Luis Rubiales, l'ancien patron de la Fédération Espagnole de Football, condamné à une amende de 11 000 euros pour son baiser imposé à la footballeuse Jenny Hermoso, loin des 2 ans et demi de prison requis par le parquet. En Israël, minute de silence sur la place des otages ce jeudi. 4 cercueils sont arrivés à la morgue de Tel Aviv. Première fois que le Hamas rendait des corps d'otages depuis le 7 octobre. Quelques heures plus tôt, le parti islamiste a exposé les cercueils sur une estrade à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Anne Verdaguer, cette mise en scène a fait réagir.
Peu avant la remise des corps à la Croix-Rouge, une cérémonie funeste a été organisée par des combattants cagoulés et armés du Hamas qui ont exposé sur un podium les 4 cercueils portant chacun la photo d'un des otages. Au-dessus, un poster du premier ministre israélien, le visage maculé de sang et affublé de dents de vampire. Des images à peine supportables selon la chef de la diplomatie allemande qui dénonce sur X la terreur sans limite du Hamas. Mes pensées vont vers les familles, a-t-elle ajouté. J'espère qu'elles pourront bientôt faire le deuil de leurs proches et les enterrer dignement. Benjamin Netanyahou a lui affirmé dans une déclaration vidéo que son pays était fou de rage contre le Hamas, qu'il a qualifié de monstre. Nous ramènerons tous nos otages, détruirons les meurtriers, éliminerons le Hamas et ensemble, avec l'aide de Dieu, nous assurerons notre avenir, a-t-il poursuivi. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a lui qualifié d'abject et cruel cette mise en scène et a dénoncé une parade des corps qui va à l'encontre du droit international qui stipule le respect de la dignité de la personne décédée. Sa famille.
Et dans le cadre de la deuxième phase de la trêve, le Hamas s'est dit prêt à libérer en une seule fois tous les otages restants. Pendant ce temps, des explosions ont touché 2 bus vides à Tel Aviv ce jeudi. Conséquence, le ministre de la Défense israélien a ordonné l'intensification des opérations en Cisjordanie occupée. Concernant les discussions, une rencontre est prévue vendredi entre plusieurs dirigeants arabes à Riyad. Le but, trouver une réponse face à la proposition de Donald Trump. Le président américain veut transformer l'enclave en une riviera et déplacer les plus de 2 millions de Palestiniens. Gaza, où l'armée israélienne a tué plus de 48 000 Palestiniens, en majorité des civils. Une rencontre extrêmement productive, c'est ce qu'indique Volodymyr Zelensky après sa réunion avec l'émissaire américain Kit Kellogg. Le président ukrainien a plaidé pour des relations solides entre l'Ukraine et les États-Unis. La veille, il avait essuyé une volée d'invectives de la part du locataire de la Maison Blanche. Donald Trump l'avait qualifié de dictateur sans élection. Son rapprochement entamé avec Vladimir Poutine fait craindre une rupture entre Washington et Kiev. De son côté, Emmanuel Macron rencontrera le président Donald Trump dans les prochains jours. Je lui dirai qu'être faible face à Poutine n'est pas dans son intérêt, les mots du président français. Cela fait un mois que Donald Trump est revenu à la Maison Blanche, un mois marqué par des déclarations réactionnaires et des licenciements massifs dans la fonction publique. 10 000 fonctionnaires fédéraux ont été licenciés depuis la semaine dernière. Beaucoup sont sous le choc. Comme Adam, il travaille pour le Bureau national des relations au travail.
Il y a d'énormes conséquences dans les effectifs. Dans mon agence, ils ont viré le conseiller général et ils ont viré un membre du conseil. Donc on n'a plus assez de monde pour prendre les décisions. Donc on ne peut plus faire appliquer le droit des employés à s'organiser dans le secteur privé à travers le pays. Et pour les fonctionnaires fédéraux en général, c'est tout simplement le chaos. La sécurité de l'emploi et les conditions de travail sont passées à la poubelle. Donc c'est vraiment une série d'événements tragiques. Ça s'est fait avec une vitesse et une illégalité qui sont un peu surprenantes. Je ne sais pas combien il y a de décisions de justice jusqu'ici qui leur disent que ce qu'ils font est illégal, mais il y en a eu quelques-unes et en fait ils les ignorent tout simplement et ils appliquent leur programme sans se soucier de sa conformité à la loi. C'est choquant et c'est effrayant.
Alors que les discussions sont en cours pour obtenir un accord de paix en Ukraine, le constructeur automobile français Renault pourrait retourner en Russie. C'est en tout cas ce que laisse entendre le PDG du groupe, Luca De Meo, interrogé par le quotidien économique Financial Times, Agnieszka Kumor.
Avant l'invasion russe de l'Ukraine, Renault est l'un des constructeurs automobiles étrangers les plus prospères en Russie. Et ce, grâce à son alliance avec Avtovaz, le géant russe fabricant des Lada, voitures stars de l'époque soviétique. Mais en mai 2022, le groupe français doit vendre ses actifs ainsi que sa participation de 68% dans Avtovaz pour un rouble symbolique. Il conserve toutefois une option de rachat de sa participation dans la maison mère de Lada pendant 6 ans. Aujourd'hui, le constructeur n'exclut pas d'utiliser cette option pour retourner en Russie où, avant la guerre, il réalisait 1/10 de son chiffre d'affaires. Les raisons de ce possible retour seraient purement économique, selon le PDG de Renault. Après les bénéfices records en 2024 qui font exception dans le secteur automobile européen en crise, le groupe souhaite conforter ses performances grâce notamment à sa nouvelle gamme de voitures et ses réductions de coûts.
Stupeur en Bolivie, Evo Morales se déclare candidat à la présidentielle du 17 août. L'ancien président est pourtant inéligible car il a déjà exercé 2 mandats. Une candidature sous la bannière d'un autre parti que le mouvement vers le socialisme dont il a été le leader historique. Le premier chef d'État bolivien d'origine indigène est également accusé de traite de mineurs et visé par un mandat d'arrêt. Lui aussi est un ancien président, Jair Bolsonaro, inculpé pour un projet présumé de coup d'État pour se maintenir au pouvoir en 2022. L'ex-président d'extrême droite brésilien a fustigé mercredi des vagues accusations d'un régime autoritaire. Lui et 33 autres suspects sont dans l'attente d'une décision de la Cour suprême sur l'ouverture ou non d'un procès. Sara Cozzolino, la défense de l'ancien président, se dit indignée par les accusations du parquet.
L'avocat de Jair Bolsonaro parle d'accusations ineptes basées uniquement sur des aveux récompensés. Il s'agit du témoignage du lieutenant-colonel Mauro Cigi, ancien aide de camp de Jair Bolsonaro. L'avocat du général Walter Braga Neto, colistier de l'ancien président en 2022, s'est également exprimé ce mercredi.
Cette accusation est fantaisiste. Elle est le fruit de la créativité intellectuelle du parquet.
L'acte d'accusation du parquet est tout simplement vide pour Flavio Bolsonaro, sénateur et fils de l'ancien président.
D'un côté, nous sommes très tranquilles car nous savons que Jair Bolsonaro n'a rien fait de mal. Et d'un autre côté, nous observons la mise en place d'un appareil de persécution qui utilise la machine publique pour tenter de condamner une personne innocente.
Jair Bolsonaro a toujours nié en bloc les accusations au sujet d'une tentative de coup d'État après sa défaite. Il se pose en victime d'une machination contre lui. La défense a désormais 15 jours pour soulever d'éventuelles contestations devant la Cour suprême. Inéligible jusqu'en 2030, Jair Bolsonaro espère encore faire annuler cette condamnation pour se présenter à la présidentielle de 2026. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
L'image avait choqué. Luis Rubiales, l'ancien patron de la Fédération Espagnole de Football, écope d'une amende de 11 000 euros pour son baiser imposé à la footballeuse Jenny Hermoso. C'était lors de la remise de la Coupe du Monde féminine, une condamnation loin des 2 ans et demi de prison requis par le parquet. Luis Rubiales compte quand même faire appel. François Musso à Madrid.
Il a saisi à pleine main la tête de la joueuse et lui a donné un baiser non consenti. C'est la phrase clé du magistrat au moment de rendre le verdict de cette affaire qui passionne les Espagnols depuis la remise des médailles en août 2023 en Australie après la victoire de l'équipe nationale féminine de football. Ce jour-là, le président de la fédération, Luis Rubiales, avait embrassé à pleine bouche la joueuse Jenny Hermoso devant toutes les caméras avant de devoir démissionner sous la pression populaire et médiatique. Un an et demi plus tard, la justice estime qu'il a contrevenu à la loi sur le consentement, disant que ce consentement doit être explicite alors que la joueuse ne l'avait pas exprimé et a même affirmé au cours du procès que cela avait gâché, je cite, « le plus beau jour de sa vie ». Pour autant, les magistrats s'en sont tenus à une amende, ce qui a provoqué la déception et la stupéfaction d'une majorité. Pourquoi cette mansuétude? Car, selon les juges, contrairement à la plainte de la joueuse, il n'y aurait pas eu de coercition et de menace de la part de Luis Rubiales afin que Jenny Hermoso se rétracte publiquement. L'intéressé n'a pas encore réagi publiquement à ce jugement. François Musso, Madrid RFI.
Coup dur pour Victor Wembanyama, la star française du basketball, absent au moins jusqu'à mi-avril en raison d'une thrombose, un caillot de sang dans une veine de son épaule droite. Il va manquer le reste de la saison régulière de NBA qui s'achève mi-avril. Sans lui, les San Antonio Spurs auront du mal à se qualifier pour les phases finales. Ils sont actuellement 12e de la conférence Ouest.